Maurice Strauss, Adant Worth, chapitre 13. Ce qu'il y a de plus américain en Amérique, ce pays où l'on ne badine pas sur le lieu dollar, et dans le monde entier, où la mentalité américaine a fait tache d'huile, c'est l'institution de police privée Pinkerton, du nom de son fondateur. Les Pinkerton avaient mis tout en œuvre pour découvrir le gîte du Gainsborough. J'étais filé, épié, interviewé. Si en voyage, je causais pour charmer les longueurs de la route ou peloter la dupe en attendant partie, et que mon compagnon se lançait dans des considérations d'art, j'étais fixé. C'était un agent de Pinkerton. Il a été question de tableaux volés par moi, il y avait 25 ans. Avec une admirable ténacité, les Pinkerton cherchaient dans le cercle de mes amis celui dont l'heureuse influence me déciderait à agréer leur service. Car, ne pouvant me placer, ils entendaient me servir. Ils se seraient estimés heureux si, agréant leurs bons offices, je leur avais permis d'agir comme intermédiaire entre moi et M. Agilew, les marchands de tableaux de Londres à qui j'avais volé le Gainsborough. Ils parlèrent dans ce sens à M. S., un postman bien connu, avec qui jadis j'étais associé quand j'avais une écurie de course. M. S. me chapitra avec abondance et se porta garant de la police. Je n'en doutais pas, confiant que je saurais déjouer toute tentative de la traîtrise. Et puis, j'étais bien disposé envers les filles de Carton. Il venait d'arrêter ce baron belge, ce mouchard, qui m'avait fait tant souffrir dans la prison de Louvain. Il l'avait livré à la justice américaine, qui le condamnait à une perpétuité d'effitation. Restait un seul point noir, la modicité de la récompense offerte par M. Agnew, 1000 livres, 25 000 francs. Avec plus de courage à sa poche, depuis longtemps, ils auraient pu voir ravoir leurs marchandises. Et les pourparlers portèrent là-dessus. Soudain, les Anglais les rompirent, émettant la supposition qu'il s'agissait d'une escroquerie ourdie par de rusés américains qui n'étaient pas en possession du tableau. En mon nom, M. S. proposa alors de renoncer à toute récompense en argent si on ne conférait le droit d'exposer publiquement le tableau à mon profit et pendant 4 mois avant de le restituer. Cette proposition fut déclinée. Alors je fis demander le monopole de la reproduction par la pointe sèche, doutant pas d'en vendre des millions d'exemplaires étant donné la formidable réclame que ferait au tableau sa restitution après un quart de siècle de recel. Messieurs Agnew, voyant qu'ils n'étaient pas les plus forts, consentirent à majorer quelque peu la somme primitivement offerte. Et par les soins des Pinkerton, l'échange se fit à Chicago. Je touchai l'argent, je rendis le tableau. Et je ne crois pas qu'un événement capable de changer la face du monde eût pu faire plus de bruit que ce changement de main, déplaçant une peinture dont l'artiste qui l'avait fait fut payé plutôt chichement. Je pensais à cela au Louvre, où je me promenais avec Smacky Davy, et m'arrêtant dans le salon carré devant la Joconde de Vinci, je lui dis: « Cette Mona Lisa, Et s'il faut en croire les Américains, le joyau de ce musée. Un jour que l'accès de cette salle sera interdit au public, on pourrait se mêler aux ouvriers qui travaillent constamment ici à quelques réfections. Il serait facile d'enlever le panneau de son cadre et de l'emporter. Et peut-être, comme pour le Gainsborough, faudrait-il attendre 25 ans pour toucher le prix du Larcin. Peut-être l'obtiendrait-on plus tôt. Il faudrait user l'intransigeance des autorités françaises par des tentatives répétées. Bonne à copier des Rembrandt dans une salle d'une telle perfection de fidélité que les experts n'ont plus su reconnaître la copie de l'original. Si nous volons la Joconde, nous en ferons exécuter une copie soignée que nous ferons offrir au Louvre. Et si notre mandataire est bien accueilli, nous poursuivrons la négociation et nous restituerons le véritable Vinci. Si au contraire, on essaye de sévir, de ruser, il n'y aura rien de fait et nous recommencerons plus tard. Mais une autre besogne sollicitait notre attention. Je m'étais demandé à maintes reprises si la difficulté de s'emparer de la recette d'une grande gare de chemin de fer était vraiment insurmontable. Dans les grandes gares de Paris, le trafic est fantastique. Que l'on songe aux départs incessants, à la foule des voyageurs, à ce que chacun doit verser au guichet avant de se mettre en route, et l'on conviendra que la récolte totalisée doit atteindre un chiffre alléchant. Bien souvent, j'avais médité là-dessus. Dans la gare de Lyon, dans la gare d'Orléans, dans la gare Saint-Lazare et dans la gare du Nord, j'avais combiné toute une stratégie tendant à la conquête de la caisse. Or, je viens de constater qu'à la gare du Nord, les conditions actuelles se présente merveilleusement favorable. Deux fois par semaine, un fourgon vient chercher la recette. En ce moment, la cour de Maubeuge est en réfection. On dépave ici, on repave par là. Si bien que le fourgon doit s'arrêter à l'entrée tout contre la rue de Dunkerque. Du fond de la cour, on vient y apporter les sacs de gros sous, de monnaie d'or et d'argent. Ils sont chargés dans la caisse du fourgon, et le conducteur, avant de monter sur son siège, fait plus de 150 pas, serrant dans son aisselle la serviette où l'on a mis les billets de banque. J'ai mené Smelke Davy voir ça. Et silencieusement, nous avons procédé à une répétition générale en attendant l'occasion propice. On entre dans la cour de Maubeuge par la rue de Dunkerque. À droite, elle est bordée par le bâtiment de la gare avec les multiples entrées, accès aux guichets, les billets internationaux et aux voies de grande ligne. À gauche se trouvent les bureaux de l'administration. C'est là que la recette est vérifiée, enregistrée. C'est de là qu'elle est transportée au fourgon, qui va la mettre à la banque. Sneaky Davy est posté sur le trottoir, côté de la gare. Il a l'air affairé, pressé, mécontent. Il tient une valise à la main. Moi, je suis dans la rue de Dunkerque, tout près du Mion. Je fais de petits cercles de plus en plus circonscrits. Un homme immobile dans un tel va-et-vient serait vite remarqué, mécaniquement noté. Et après l'événement, quelqu'un pourrait se souvenir et signaler. Le conducteur, accompagné de porteurs, a chargé les sacs dans le fourgon. Et pour opérer plus à l'aise, Il a déposé le portefeuille sur le marchepied de son siège. Il est bourré, ce portefeuille. Combien y a-t-il là-dedans, de ces falots bleus, de ces vignettes de la Banque de France? Bah, je le verrai bien tout à l'heure. Du sang-froid, le butin est à ce prix. Les porteurs ont tourné le dos. Le conducteur ferme à clé la caisse du fourgon. Le portefeuille est là, à ma portée. Je lance à Snegidi un regard significatif et impérieux. Il frappe sur l'épaule du conducteur, occupé à mettre sa vareuse, qu'il avait quittée pour travailler plus commodément. Le conducteur, en train d'enfiler une manche, se retourne. Oh, ce moment m'a suffi. Davy, qui, avec sa valise, semble tout à fait en détresse, supplie. « Dites-moi, monsieur, voilà une heure que je cherche, je ne peux pas trouver. Où faut-il prendre le billet pour Londres, par Calais ?» Le conducteur, amusé par l'accent anglais de son interlocuteur, que peut-être mentalement il traite de gourde, part d'un bon rire. « C'est pourtant pas difficile à trouver. Là, voyons, là, vous dis-je. Sacre bleu, mais ça vous crève les yeux. » Et obligeant, il fait quelques pas. « Oh, je vois très bien à présent. Merci beaucoup. » Et Davy va droit au guichet. Mais il ne se met pas entre les barrières. Il dépose sa valise à terre, l'abandonne et prestement, perdu dans la foule, il se glisse hors de la gare, saute dans une voiture et se fait conduire chez V, près de la pointe Rivoli, où nous nous sommes donné rendez-vous. Je m'y trouvais déjà. L'ouvrage était fait, et proprement fait, j'ose m'en flatter. Sans m'arrêter en passant, j'ai allongé le bras, j'ai pris la serviette, semblable à toutes les serviettes qui se baladent dans Paris, les gens qui font très tas de paperasse. Peut-être ceux qui m'ont vu passer ainsi m'ont-ils pris pour un homme d'affaires. D'après ce que j'ai lu dans les journaux, qui ont fait grand bruit autour de ce vol qualifié de mystérieux, le conducteur, qui riait encore de la fête effarée de l'anglais et de son accent, est resté comme frappé de la foudre quand, voulant reprendre son portefeuille, il ne la trouve plus là où il l'avait déposé. Peut-être avait-il glissé, était-il tombé. Le brave homme, consterné, rampa à quatre pattes sous la voiture. Non, rien. Alors il ameuta le monde par ses cris. Il s'écoula quelque temps avant que le commissaire spécial de la gare pût tirer de cet homme au désespoir une indication quelconque. Il jurait que l'anglais à qui il avait servi de guide n'avait pu s'emparer du portefeuille. Le commissaire l'admettait, mais comprenait très bien ce rôle de ce faux voyageur. La police se trouva donc en possession du signalement de mon complice, pour autant que le conducteur put le définir. Quant à mon signalement, comment aurait-on pu faire pour l'établir? On ne nous pinça ni l'un ni l'autre. Et nous n'avons pas perdu notre journée, car le portefeuille contenait 450 000 francs en billets de banque, les uns tout neufs, les autres usagés, mais tous également bons et valables. Épilogue. Il semble bien que ce vol de 450 000 francs en billets de banque à la gare du Nord de Paris fut la dernière prouesse marquante d'Adam Worth. À son habitude, quand il avait accompli un de ces coups d'audace dans lesquels il excellait, Il laissait la police se morfondre sur des pistes chimériques, se riait des hypothèses imaginées par les journaux, et fuyant le théâtre de sa sensationnelle exploit, avait même, avant même que la rumeur publique en fût alimentée, il s'en allait en Amérique, dans son cottage, perché dans la montagne, il retrempait ses nerfs pour de futures expéditions, et y goûtait en paix les saines joies de la famille. Mais cette fois, le repos devint définitif. Ce fut le repos éternel qui jette au néant le génie comme la médiocrité. Et cette mort tranquille et résignée ne fut pas ce qu'il y a de moins surprenant dans cette existence, si fertile en péripéties inattendues. Il avait été la bête noire de la police des deux hémisphères. Dès qu'un vol au chiffre fantastique, un vol hardi et mystérieux était accompli, on soupçonnait Worth. Mais comment étayer cette présomption par une preuve? Il s'y dérobait, se riait ouvertement des détectives chargés de surveiller ses faits et gestes, tout prêts à le prendre la main dans le sac. Mais tant qu'ils étaient là, ils s'en gardaient bien de mettre la main dans le sac. Quand il avait résolu de travailler, il trouvait toujours un moyen de se soustraire à leur agaçante présence. Certes, ses talents, l'usage qu'il en faisait, ses idées sur la propriété d'autrui, sa désinvolture à s'emparer de ce qui ne lui appartenait pas, rien de tout cela n'est conforme aux règles de la moralité courante. Et si je tentais de faire ici le panégyrique d'Annanworth, je m'exposerais à juste titre au blâme de tous ceux qui professent le souci de maintenir l'ordre social et qui se sentiraient fort scandalisés de rencontrer pareil éloge. Tout de même, on ne saurait lui contester quelques qualités. Son respect de la vie humaine lui interdit le port de toute arme meurtrière, même dans ses expéditions les plus périlleuses. Celles où il ne pouvait l'ignorer, il courait le plus grand risque d'être tué. Cette horreur de verser le sang lui fait préférer la prison et même la mort au geste rapide et brutal qui doit, dans la pensée des naïfs, assurer le silence et la sécurité. Sa générosité fut grande, avec une insouciance, une magnificence de nomade. Il prodigue jusqu'à sa dernière pièce d'or à qui il demande, et dans sa pauvreté, dans sa captivité, il ne s'humilie point. Ce mépris de l'argent que le vulgaire attribue au seigneur de haute naissance, ce voleur, fils d'un humble artisan juif, le pratique hautainement, et quelle que soit la chance, malheureuse ou propice, il reste impassible. Pour ce qui fut de ses manières, de sa civilité, de son savoir-vivre, le prince de Galles s'y laisse prendre. C'est tout dire. Tel qu'il fut, il n'est point d'égal, et ne ressemblant rien à ces héros fictifs, héros gonflés de ridicule emphase que l'on rencontre dans les pages innombrables des romans policiers. D'ailleurs, et sûrement le lecteur aura déjà fait cette remarque, les mémoires d'un voleur de qualité, c'est exactement le contraire d'un roman policier.